Lors de ses premiers pas en solitaire, Henri pensa à ses premiers pas. S'asseyant essoufflé sur un banc, il se les imagina, quittant les volutes des terres et retrouvant l'air vrai, son esprit stimulé eut les moyens de ce voyage. Petit être dépendant, rose et vagissant, pour la première fois, il découvrait un espace sien. Après les hésitations turbulentes, les chutes en rond, les tentatives roucoulantes, il avait dû un jour se trouver seul, debout, entre des mains rassurantes, prolongement d'un cœur qui voulait le protéger de la terre entière pour l'y mieux projeter. Debout, sans avancer, sécurisé, dans une pose statique, appelée par le vide et par le mouvement, tendu vers l'inconnu, seul appel vraiment entendu. Lève un pied, premier élan, né du déséquilibre, qui le jette en avant, fulgurante avancée, qui explose sa planète. Dans sa tête, encore flou, assis sur ce banc d'automne, il est de nouveau en équilibre, devant un inconnu qui l'attire, qui l'appelle, qu'il ne soupçonne. Autre pied, autre pas, mais qu'importe, seul le premier compta. Qu'en est-il aujourd'hui? Va-t-il jeter son pied? Quel terrain saura le recueillir? Que seront les réponses? Lucas était venu le voir. C'est à lui qu'il pense en premier. Pourquoi? Il a le sentiment que ce ne sont pas les visites suivant son réveil qui l'ont marqué. Ils ont fait connaissance. Avec Amélie, puis sans elle. Non, il pense que c'est leur première rencontre, alors que lui était encore en partance, qu'il a marqué. Lucas lui en a parlé, la main sur son bras, sa réaction. Henri a eu l'impression très précise d'avoir vécu cet instant-là de l'intérieur. Il a eu le sentiment, quand ses yeux ont découvert Lucas, que ce n'était pas la première fois qu'il le voyait. C'est pourtant Amélie qui l'avait le plus accompagné durant tout ce séjour d'instance. Elle avait été très assidue, elle avait beaucoup parlé, l'avait réchauffé. Il ne s'était pas senti en tristesse. Il croit bien qu'il s'est vraiment réveillé alors qu'elle avait évoqué Virginie et les démarches faites pour la joindre. Jusque-là, il acceptait toute cette dépendance. Virginie, dès lors, lui avait beaucoup manqué. Elle était venue pendant son sommeil. Il avait senti sa présence. Elle avait dû retourner à sa vie et avait pris de ses nouvelles 10 fois par jour. Enfin, lui avait journellement téléphoné. Ils s'envoyaient même des lettres. Ils commençaient à être ensemble. Mais elle n'était pas là. L'écriture avait régénéré leur relation. Désormais, ils avançaient différents. Sûrement avait-elle trouvé un autre père qu'elle acceptait mieux, sûrement parce que lui s'acceptait. Léonie et Franck l'avaient aussi accompagné assidûment. S'il pense à tous ces moments, il pense miel. Pourtant, la première scène qui lui revient de leur visite est celle d'une dispute de vieux amants qu'ils eurent devant lui. Ils y avaient mis tout le sérieux, toute l'intensité qu'il fallait pour traiter d'une immense broutille. Henri avait ri à gorge déployée. Il avait imaginé qu'il lui jouait une scène de la biche. Puis, ils avaient tous ri jusqu'aux larmes, ri jusqu'à alerter les infirmières qui n'avaient su les ramener au calme et avaient fini par les accompagner. Quelques feuilles tombent avec toute la lenteur qui sied à un dernier voyage. L'automne est sur la ville. Henri réapprend la liberté. Du seul désir qui venait de naître en lui, une nouvelle foi, il allait accomplir ses premiers pas, surmonter son esprit, l'attacher à ses pieds. Plus loin, ailleurs, autrement. Il se revoit flottant au-dessus de la steppe, filant vers des horizons morbides, déshérence de lui. Sur le quai de l'hôpital, de retour de ce voyage absolu et partant pour un autre ailleurs, il fait une pause, ferme les yeux, arrête sa respiration, se remémore lentement, imprime en lui ces images hors du temps de la vie. Il se concentre, bande son corps vers l'avenir. Il se dit qu'il vient de flirter avec la mort. Sur ses lèvres, une froide empreinte. Il se dit que le voyage a commencé bien auparavant. Avant les coups, avant les poings. Voilà bien longtemps qu'il a accepté de mourir, qu'il s'est laissé glisser en une douce acceptation. L'alcool. Il n'en a pas touché depuis les coups, depuis la déchirure, depuis la coquille de noix sur l'océan de bitume. Alcool, joie, convivialité, alcool, mort lente et caricaturée. Et lui revient ce jour et les doigts qui jouaient de ce breuvage, si loin, si près, en lui, hors de lui. Le banc d'automne l'a doucement enveloppé de froid. Il ne peut plus rester. Les idées qui l'accaparent sont essentielles, vitales, mais ne peuvent le réchauffer. Il est seul. Seul. Il a eu le désir de se retrouver seul quand la solitude le conduisait droit à la mort. Sa solitude, c'est en elle qu'il doit se refonder, renaître, renaître de lui-même. Nouveau phénix. Naissance enfin acceptée, autre que celle subie, dont il n'a peut-être pas su se délier. Je suis né à l'insu de mon plein gré. Cette maxime d'un truculent barman de ses amis marseillais exilés à Toulouse lui revient en mémoire et le fait sourire. Il marche dans ses rues, rues de peu de vie, que des automobiles, des gens pressés, quelques vieux égarés. La ville froide se resserre en des tanières multiples. Ses rues sont désertées, inhumaine. Seuls les néons racolent. Il marche, plus assuré. Il percute le monde assoupi. On devine les mystères alignés, empilés. Derrière le vide des rues mortes, à travers la grisaille des passants qui s'effacent, c'est la vie qu'il devine. Il est libre de l'imaginer. Il l'impose à ses sens en réveil. Des odeurs abruties de froid amènent des images en son crâne encore mou, des images intérieures à ses murs, intérieures à son être. Il devine, il sait. toute cette humanitude terrée au fond de la ville, au fond de son crâne bouillonnant. Maintenant qu'il est dans cette situation de solitude et de désert, il comprend qu'il l'a ainsi souhaité. Il le comprend intimement. Son retour à la vie doit passer par un corridor froid et désert, si sa première naissance lui a fait traverser la chaleur absolue d'un corps. Les paroles d'un poème lui reviennent. Dépendant, aliéné, sans voix et sans audace, sortant d'un premier rêve enrobé de douceur, advint pour moi le temps d'exploser cet espace, hésitant, frémissant, d'affronter la douleur. Abandon, le premier, d'un amour absolu, un départ sans retour, un départ obligé, quitter l'eau pour le ciel, un nid pour l'inconnu, tomber en pesanteur pour apprendre à nager, vivre, simplement vivre, hors de l'amour sans mots, lancer ce premier cri, le seul et le plus beau. Je continue. La seule rencontre qu'il doit avoir, il doit l'avoir avec lui-même. Une rencontre qu'il a sûrement toujours évitée, qui peu à peu s'est imposée à lui pour jaillir enfin, soudaine et incontournable, à la suite de celle qu'il a eue avec Amélie, Virginie, et sûrement son agresseur. Sa nocturne errance urbaine, il le veut, va le ramener à son seul port. Il va recoller ses désirs à son être et se comprendre enfin quand il s'est toujours fui. Toute cette énergie employée à se fuir. Qu'y aura-t-il au bout? Et le sait-il déjà? S'il devine qu'il va enfin jouer la scène de sa vie. C'est pas mal assuré de tant de dépendance, l'ont fait glisser peu à peu dans le ventre chaud de la ville, qui à présent excrète ses ambiances. Il lui faut ce ventre. Il se sait incapable de vivre à la campagne. Il n'a pas appris les codes de la terre et doit se contenter de ce qu'a dicté l'ordre de la société. Il doit subir, mais c'est de son acceptation. De là, il se sent vivre. Les ambiances de la ville, il les connaît, les retrouve. La ville, c'est l'éclatement de l'être, mille choix, mille apparences, et puis la certitude de se retrouver seul et sourd. Pourtant, ce soir, il entend, enfin entend, discerne. Les ondes lui parviennent, des vibrations l'atteignent, sa ville enfin l'attend, et son quartier l'atteint. Le monde le percute, qu'il ne rencontrait plus de ne pouvoir se rencontrer. Il se souvient de ses écoutes, il se souvient des frissons qui naguère le parcouraient quand il se sentait proche d'un autre humain. Cette humanitude qui l'envahissait, absolue, elle lui revient. Et ce frisson qu'il ne connaissait plus, qui s'était dilué au fil lent de sa chute, il le retrouve ce soir, dans son encore solitude, à l'approche de l'écho des siens. Il se souvient. Il avait rencontré Eric un soir de fête. Le garçon était ténébreux, hors d'ambiance, alors qu'explosaient rires et fanfreluches. Une surprise partie, c'était d'alors. Ils ne s'étaient jamais encore rencontrés. Henri, fier de sortir ses trois poils de barbe, avait bien un peu bu, aussi un peu flirté. C'était saoulé d'alcool, de filles et de phrases. Là, il attendait sa reprise, savait qu'elle interviendrait vite. Il n'avait pas trop abusé. Parenthèse. Se reposait. Frédéric. Hasard. Et ils avaient parlé. Henri, qui attendait son nouveau souffle, et reluquait les filles, qui faisaient son marché, petit à petit avait été captivé. Éric, la tristesse de ses yeux, son effet d'à côté, le souffle qui revenait, il l'employa à parler à cet autre. La musique, les rires, les danses, les attresses s'effaçaient autour d'eux, qui parlaient. De jeunes hommes qui échangeaient, inconnus, différents, qui échangeaient. Partant d'eux-mêmes, ils avaient élargi à l'espèce, du jeu de leur propre importance, ils appliquaient au monde leurs lois, s'appuyant, s'il fallait, sur celles par d'autres édictées. Tout se justifiait, tout se niait. Ils appliquaient au monde tout le savoir appris. Ils commençaient à vivre. Mal à être pour Éric. Malheur de cœur, rencontre mal intégrée avec Nietzsche et ses systèmes, Sartre et son optimisme trop dissimulé. Il s'était créé une bulle de tristesse protectrice que l'insouciance d'Henri commençait à diluer. Ils étaient sortis sans que les autres, préoccupés d'eux-mêmes, s'en aperçoivent. Ils avaient erré, ainsi erre Henri ce soir. Henri se projetait, clamait ses appétits, ses exigences, savait. Éric baladait ses doutes. Le dialogue s'était installé entre eux, prêtant les hésitations de l'un aux certitudes de l'autre. Et plus tard peut-être l'inverse. Ils s'affrontaient, se rassuraient, avançaient vers leur vie. La fatigue les avait installés à la terrasse d'un café que l'automne décoiffait. Quelques bières, de cognac, dans les premiers de ceux qui ont précédé sa descente aux enfers. La rencontre avec Éric avait introduit en lui des doutes sur sa sexualité. Il avait ressenti une attirance pour cet autre, attirance qui l'avait fortement inquiété, bien qu'il n'ait pas pu en cerner les contours. Aujourd'hui, il s'en veut. Il en veut à toutes les conventions, à toute l'éducation qui l'a écarté de cette amitié. La question est plus nette aujourd'hui. La vie lui a appris les ambivalences et la complexité de sa nature. La vie lui a appris que l'individu est responsable de ses choix, non de ses inclinations. Cette pensée l'inonde d'énergie rebelle. Pourquoi avoir cru que la seule morale dirige la vie, alors qu'elle n'est qu'une indication, une référence faite à d'autres comportements humains? Morale, simple avis. Cette inclination que ces codes lui indiquaient coupable n'était sûrement qu'un penchant d'amitié. Pourquoi faudrait-il donc penser qu'il s'agit de sexe alors que seulement se rapprochent deux êtres? Pourquoi l'entourage peut-il s'approprier les manières que des êtres ont d'exister? Il n'a jamais revu Éric. Il le regrette. Il s'était quitté. Henri avait terré en son tréfonds cet inavouable doute. Il s'était quitté, insatisfait, mais heureux. Aujourd'hui, tout lui revient. Les frissons lui reviennent, tellement proches ces instants, des images précises en contour, en couleur, en odeur, les accompagnent. Henri s'appuie sur un rebord de fenêtre. Dans son dos, derrière l'opercule métallique, les bruits d'une TV, des lueurs qui dansent, des cris, des coups de feu, des râles et des plaintes. Un monde en conserve, qui livre de l'autrement à de paisibles gens qui en oublient de se rencontrer. Une odeur de friture rejoint Henri. Une hotte déverse dans les brumes de la ville des effluves fugaces et lourdes. Des bruits de femmes et d'hommes les accompagnent. quand une porte s'ouvre. Il a l'uni en humanité. Entre cette conserve de vie qui bruisse dans son dos et ce snack qui respire, il commence à se sentir bien. Tassé sur la margelle, au bord d'un puits dans lequel il a l'envie de tomber, ses reins sont bien cambrés. Il les sent. Il s'appartient. Son corps lui appartient, qu'il s'est réapproprié. Il en fait le tour. Ses pieds mal à l'aise, imprimés sur le macadam. Ses jambes qui voudraient fléchir, mais le tiennent debout. Son sexe vivant et qui est. Un ventre chaud qui gargouille aux sollicitations des effluves voisines. Tous les sens éveillés. Il se découvre. Henri se ressent. Il a envie d'hurler « Putain, c'est bon de vivre !» et le susurre entre ses dents. Il retrouve le frisson, celui-là même rencontré à se sentir si proche d'Éric qu'il aimerait le revoir, réécrire les pages évitées. Il pense que c'est surtout lui-même qu'il a évité. Éric n'est que l'image de ses renoncements, de ses aliénations. Et puis qu'importe, Éric appartient à son passé. Seul l'avenir doit désormais l'intéresser. La vie s'écrit en avançant. L'arrière est là pour fonder le devant. Je dois enfin vivre ma vie. La ville, le elle, la ville qui explose les êtres de trop de sollicitations, la ville qui se connecte, s'interconnecte aux autres villes, aux autres univers, mais déconnecte ses sujets. La ville qui l'a englouti, lui qui croyait tout engloutir. Cette ville qui va, aujourd'hui, ce soir, se le réapproprier. Cette ville qui l'a tué, guéri, et qui de nouveau va le digérer. Le frisson est là. Pourquoi ? Son sexe réagit. Pourquoi ? Comprendre ce qui se passe en lui. Cette intime réaction, quelle est-elle ? Lui-même et son goût pour la vie ? Quel rapport entre cette érection et ce qu'il connaît à l'instant ? Pourquoi tant d'importance accordée à une réaction qui n'est que vie et ne traduit pas par obligation un appel du corps, un appel vers un corps? Pourquoi a-t-il fui Éric pour cette confusion? Il lui apparaît si clairement maintenant qu'il n'avait pas d'attirance physique, mais seulement un désir d'approche, un désir de pleine nature, de pleine amitié, qu'il n'a pas su dominer, ne sachant gérer ses propres limites, se retranchant derrière d'autres, imposé, facilité. Par cette facilité, il a perdu un ami. Il ne saura jamais ce qu'une attirance culpabilisée lui interdit d'approcher. Que ce soit homme ou femme, toutes les rencontres n'échouent pas dans un lit. Pourquoi alors refuser l'approche? Qu'est-ce donc qui l'a fait refuser? Que craignait-il? Et quoi de sa culture? Et quoi de sa nature? Des femmes tout autant, ces frissons ressentis qui ne sont pas sexualité, mais seul bien-être, sans désir d'outre-aller. Et pourquoi donc le sexe? Seul aboutissement? Il n'a pas bu. Depuis ce jour, il n'a pas bu. La tête lui tourne. Pourtant, se posent de nouveau les questions déjà résolues. Revivre? Est-ce donc tout reprendre? Il hurle dans l'urbaine indifférence. « En aurais-je la force ?» Personne ne l'entend. Que lui? Que ce qu'il aime, se dit-il. Assurément. Mais où sont-ils à ce moment? Virginie? Amélie? Léonie? Franck? Éric? Lucas? Son université? Il est seul refroidi, il sait qu'il doit s'en aller, rencontrer d'autres vies, Rien n'excuse vraiment le poids des silences, n'est-ce le poids des absences? Que sont donc les présences qui ne parlent pas? Pourquoi revenir dans cet univers que je n'ai pas vraiment quitté? Quitté. Ne suis-je pas sorti pour revenir par une autre porte? Cette première vie et revenir ailleurs, à côté, autre, autre, mais le même, fabuleuse émergence. Alors qu'on lui disait renaissance, ce mot ne l'avait qu'effleuré, pas pénétré. Mais aujourd'hui, Henri se dit que le chemin est à nouveau entier à parcourir. Nouveau. La vraie nouveauté qu'à cette heure, il ait envie de le parcourir. Renaissance. L'allée qu'il aspirait, un instant fermant les yeux, il la retrouve, se plaît à imaginer qu'elle défile dans l'autre sens. Une à une, à nouveau, il va devoir se poser les questions, celles qui ont amené les réponses casées au fond de sa mémoire et qui ont fondé son être et sa vie. Renaissance. C'est dit. Vite un taxi et retrouver son lit, son propre lit. C'est son corps qui réclame. Sa tête n'a pas envie tant elle est bourrée des appétits qu'elle voudrait imposer à ce corps, corps qu'elle voudrait proprement asservir. Mais les deux sont unis et la tête ne commande que dans les limites qui lui sont autorisées. Derrière lui, le récepteur déroule du vendant. Devant, des êtres se rencontrent, mangent et boivent, vivent, préparent une nuit d'amour ou bien de solitude. Ils s'écartent de la margelle du néant, avancent dans la lueur fade d'un réverbère docile. Il avance, avance vers la vie. Le frisson est en lui, apaisant, excitant. Il est vivant. Les questions reviendront, réponses surgiront. Henri a dépassé le snack, il a hésité à y entrer, il a bien un peu faim à présent. L'insipide nourriture hospitalière ne l'a guère dérangé, tant qu'il était dans le cadre ad hoc. Mais les odeurs qu'il croise lui rappellent que la nourriture c'est autre chose, c'est surtout à Toulouse. Maintenant il a faim, mais pas encore d'humanité. Son corps domine sa tête, il ne pense plus qu'à ce besoin primaire qui commence à le tenailler. Les autres pensées l'ont déserté, il n'est plus qu'à son ventre. Henri, Henri, qu'il est bon de ressentir ce genre de sensation après tout ce qu'il vient de passer. Il ne pense pas encore rentrer à son domicile. C'est vrai qu'il y mange peu souvent. C'est vrai surtout qu'il ne s'y sent pas en liberté. C'est un cadre qui lui rappelle trop son passé, alors qu'il veut revivre. Un projet le traverse. Quitter son domicile, quitter ses habitudes, reprendre un autre cours. Pour cela, il lui faut, il le sent, changer ses codes, casser son carcan. C'est ça, il va changer de domicile, une bonne idée qu'il vient d'avoir là. Ce sera une aide à sa renaissance. Il repart en gamberge. Sa faim est oubliée. La place du Capitole est atteinte que trotte dans sa tête une foule d'idées. Il commence à composer son programme du lendemain. Un tumulte le rattrape. Un coup d'œil à l'horloge de l'hôtel de ville le ramène dans le temps. 20h30. Il réalise. Se retourne. Le tumulte lui devient évident. Des étudiants en monôme courent dans sa direction. Ils sont en joie. Et malgré l'heure, explose la vie. Il les attend. La joie le gagne. Que de souvenirs remontent en lui. Que de fois il a fait le fou dans ses rues. Ils l'ont rattrapé. Henri se baigne en eux, les frôle, les respire. Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Il prend la peine de les regarder, les voit comme jamais il ne les a regardés. ce sont les mêmes devant lesquels habituellement il se produit. Les peaux fines et bien tirées, l'éclat de l'œil en étendard. Come back. Revivre, renaître, seconde chance. Il rit et se laisse emporter. Si ses jambes se dérobent, des bras y pâlit. Il est de leur ronde. Il est de leur vie, même s'il ne les connaît pas. Il est de leur rang. Ils ne font pas attention à lui. Ils s'entre-appartiennent. Rondes, rondes, rondes et cris. Rire. Henri n'en peut plus, mais sa tête et ses compagnons le tiennent. Il est prêt d'exploser. Il exulte. Le rythme de sa respiration s'est emballé. Il n'en peut plus. Coquelicot de joie, il a fini par se poser sur une borne de ville, laissant dans la file en partance quelques sourires barbouillés de regrets. Un bruit qui s'éloigne et le silence de la ville, bruit sourd, informe et sans âme. Son cœur est au cœur de la ville. Le monôme l'y a réintégré. Henri doit reprendre son souffle, retrouver le fil de sa vie. Un autre fil.
Chris a passé une bonne partie de sa journée dans le hall de la gare de Matabio. Lentement, il a regardé les destinations affichées, imaginé la vie qu'il pourrait mener dans ces villes. Il s'est vu sac au dos, valise à la main, sauter dans le wagon qui l'emmène loin de Toulouse. Il s'est endormi, bercé par la mer, visage fouetté par un vent de sel, souriant. Un vigile ne s'intéresse pas à ce sourire et le secoue. « Allez, gamin, il est temps de rentrer. Oust !» Il retrouve l'air de sa ville, flâne un peu, traverse la place Wilson, entend un joyeux tumulte vers le Capitole et s'y dirige. Un monôme d'étudiant jette ses cris et sa joie à décrocher les étoiles. Ce n'est pas son monde. Il les regarde passer, s'amuse des volutes de leur fête, puis se dirige vers sa banlieue.
Anymore.